Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. En ce lundi matin, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30.
Générosité pour les hommes de bonne volonté. Générosité qui pardonne aux hommes.
Ah, de la bonne musique de bon matin et de la générosité. Les Français en ont à revendre, Omblin.
Oh que oui, nous sommes de plus en plus généreux et solidaires, Julien. Ce n'est pas moi qui le dis, ni Enrico Macias, mais l'Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France. Les dons ont atteint 8,5 milliards d'euros en 2019. C'est 1 milliard de plus qu'en 2015, lors de la première édition de ce baromètre. On apprend notamment qu'il n'y a pas plus de donneurs, figurez-vous, mais que les dons ont augmenté en moyenne 560 euros par foyer. En revanche, les entreprises mécènes, elles sont plus nombreuses. Alors qu'est-ce que ça dit de notre société? Quels sont les profils de ces donateurs et est-ce que cette dynamique va se maintenir? Décryptage à 5h40 avec Axelle Davézac, la directrice générale de la Fondation de France.
Une demi-heure plus tard, nous irons en Guyane où la situation sanitaire redevient très préoccupante et ce malgré un couvre-feu très strict et des restaurants toujours fermés. C'est simple, un quart des décès liés au Covid depuis le début de la pandémie ont eu lieu ces 45 derniers jours et à chaque fois le constat est le même. Ces personnes n'étaient pas vaccinées comme 70% de la population guyanaise. C'est pour cette raison que le ministre des Outre-mer est sur place depuis vendredi dernier, Sébastien Lecornu, avec lequel nous serons en ligne. Comment faire face à cette situation? Comment rétablir la confiance après les propos, notamment de Christiane Taubira, qui refuse d'appeler la population à aller se faire vacciner? Réponse à 6h10.
Nous aurons aussi quelques douceurs au programme.
Notamment la prescription culture. Dans 45 minutes, Margot Barallon va nous conseiller une série documentaire sur Netflix qui raconte l'envers du sport à travers 5 histoires marquantes. Enfin, on terminera avec votre partition, Omblin.
Élégance naturelle, voix puissante, charme italo-américain, ça aurait presque pu être vous, hein, Julien.
Oh,
longtemps resté dans l'ombre de Frank Sinatra, il est l'une des voix les plus célèbres de l'Amérique.
Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal.
Il chante quand même beaucoup mieux que moi. Hein.
Ouais. Tony Bennett, 95 ans et un nouvel album qui sort cette semaine. Il sera le héros de la partition à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. Excellent début de semaine avec Europe 1, avec tout d'abord la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Après ce week-end pluvieux, comment s'annonce ce lundi?
Alors on aura un lundi très mitigé, avec sur une grande partie du pays une nouvelle perturbation qui arrive et cela va concerner la moitié nord du pays. Donc des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France en passant par la Bretagne, la Normandie, la région parisienne. C'est un temps très pluvieux. Aujourd'hui, dans l'après-midi, les pluies vont se décaler vers l'est, vers la Bourgogne, vers le Grand Est. Et alors si vous n'avez pas de pluie, vous aurez de toute façon un ciel très couvert et très gris. Prudence, car nous allons avoir aujourd'hui le premier gros coup de vent de l'automne. Il va concerner les côtes du Finistère et les côtes de la Manche, avec des rafales jusqu'à 100 km/h. La bonne nouvelle, c'est le retour du soleil sur la moitié sud du pays. On a quand même eu un week-end très agité dans le sud, avec l'équivalent de 4 semaines de pluie par endroit. Je pense aux Gard, l'Hérault, la Côte d'Azur hier après-midi, où on a eu des orages très forts sur Cannes et Nice. Eh bien, aujourd'hui, c'est le retour du soleil, les températures. Alors, à 4h du matin, on avait 12 degrés à Épinal, 15 à Tours, Évreux et Charleville. 16 degrés à Paris, 18 à Nice et déjà 22 degrés à Calvi. Cet après-midi, 17 à 33 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Place à l'info avec le premier journal de votre matinale. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Conservateurs et sociodémocrates dans un mouchoir de poche aux élections législatives allemandes. SPD et CDU revendiquent la victoire et veulent former leur gouvernement pour succéder Angela Merkel à la chancellerie. Résultats et analyses dès le début de ce journal. Un scrutin suivi de très près par l'Elysée. En déplacement à Lyon, Emmanuel Macron est resté accroché à son téléphone toute la soirée pour suivre en temps réel les dernières nouvelles d'Allemagne. SOS Médecins injoignable ce matin et ce jusqu'à demain 8h. La Fédération réclame des moyens supplémentaires pour soutenir la visite à domicile. Et puis 2 ans, jour pour jour, après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, manifestation devant la préfecture de Seine-Maritime hier. Les associations de victimes réclament la transparence sur les effets à long terme pour la santé de l'énorme nuage noir qui avait survolé la ville.
Europe
Europe 1.
Et le journal de 5 heures vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Conservateurs et sociaux-démocrates revendiquent chacun la victoire suite aux résultats des élections législatives allemandes qui se sont déroulées hier. Deux candidats peuvent prétendre à la chancellerie, Armin Laschet de la CDU et Olaf Scholz du SPD qui semble avoir une petite avance. Tout va dépendre maintenant des négociations de coalition qui commencent ce matin avec les Verts et les Libéraux, faiseurs de roi. Hélène Kohl, vous êtes à Berlin pour Europe 1.
L'Allemagne est une démocratie parlementaire. On l'a bien vu hier soir encore, celui qui devient chancelier n'est pas forcément le gagnant du scrutin, mais comme l'a rappelé Armin Laschet, le candidat de la CDU, c'est celui qui est capable de bâtir le plus vite une majorité stable au Bundestag.
Le chancelier, c'est celui qui a une majorité au Bundestag.
Il a commencé à faire les yeux doux aux Verts, qui pour l'instant ne répondent pas. Annalena Baerbock veut avant tout des propositions concrètes.
On a l'impression d'être au bazar ici. La politique n'est pas un bazar. Une démocratie nécessite des compromis.
Son parti n'a pas atteint le score espéré, mais il est en position absolument centrale, capable de couronner soit Laschet, soit Scholz. Et les libéraux suivront, c'est ce qu'a laissé comprendre leur président, Christian Lindner.
Le prochain gouvernement sera beaucoup plus écologiste. Il y a beaucoup de gens dans notre pays qui souhaitent que la politique porte une sensibilité plus environnementale.
C'est pour l'instant la seule clarification de ce lendemain de scrutin. Les libéraux du FDP et les Verts veulent travailler ensemble pour moderniser l'Allemagne. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et les résultats officiels viennent à l'instant de tomber. Les sociaux-démocrates remportent ces législatives avec très précisément 25,7% des voix. Ce sont pour l'heure des résultats provisoires, mais résultats officiels. Des résultats en tout cas qu'Emmanuel Macron a suivi de très près hier soir.
Oui, le chef de l'État est resté téléphone greffé à la main toute la soirée. Il était pourtant en bonne compagnie, entouré de grands chefs à Lyon, dans la perspective aujourd'hui du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Bonjour Jacques Seret.
Bonjour.
Alors, le dîner devait sûrement être très bon, mais Emmanuel Macron avait visiblement l'esprit du côté de Berlin.
Oui, toute la soirée, le chef de l'État est resté près de son téléphone. Emmanuel Macron tenait à être informé par SMS en temps réel des résultats outre-Rhin et à recevoir des analyses, des synthèses sur la situation et ses conséquences. Mission confiée à deux conseillers de l'Élysée, le conseiller diplomatique Emmanuel Beaune et le conseiller Europe Alexandre Adam. C'est dire ce que représente la relation qu'il a construite avec la chancelière, explique un proche du président. Olaf Scholz ou Armin Laschet, l'Élysée disait ne pas avoir de préférence, tant les deux n'ont cessé de revendiquer une certaine continuité à Angela Merkel. En fait, ce qui importe surtout à Emmanuel Macron, c'est ce qui se joue maintenant. La formation d'une coalition sera-t-elle dominée par la droite et les libéraux, ou bien plutôt par la gauche et les verts? C'est stratégique pour le chef de l'État, alors que dans un peu plus de 3 mois, il prendra la présidence de l'Union européenne et qu'il compte bien s'appuyer sur un couple franco-allemand toujours aussi fort. En attendant, l'Élysée s'abstient de tout commentaire avant de s'exprimer publiquement. Emmanuel Macron veut attendre que le futur chancelier soit investi au Bundestag.
Et Emmanuel Macron a annoncé la création d'un centre d'excellence de la gastronomie française. Il devrait être basé dans la région lyonnaise. Centre qu'il a comparé à Clairefontaine pour le football et Marcoussis pour le rugby.
On en vient à cette statistique inquiétante. Jusqu'à 30% des moins de 24 ans auraient déjà eu des pensées suicidaires.
C'est une information Europe 1, alors que s'ouvrent aujourd'hui les assises de la santé mentale et de la psychiatrie pour 2 jours. L'occasion de dresser un état des lieux et le bilan est sans appel. La santé mentale des Français s'est dégradée, notamment à cause de la crise sanitaire.
Le téléphone sonnera dans le vide aujourd'hui si vous tentez de joindre SOS Médecins.
Et jusqu'à demain, 8h, la Fédération d'associations de médecins libéraux se met en arrêt total et proteste contre ce qu'elle appelle la fin programmée des visites à domicile, pas suffisamment rémunérées à leurs yeux. Explication du président de SOS Médecins, Jean-Christophe Masseron.
Alors elle risque de disparaître tout simplement par manque d'attractivité, puisqu'aujourd'hui une visite de journée c'est 35 euros, ça prend 3 quarts d'heure, 1 heure parfois, parfois plus. Pendant le même temps, vous consultez 3 patients au cabinet à 25 euros, ça fait 75 euros. C'est beaucoup plus attractif aujourd'hui que de monter dans une voiture et avec les contraintes qui sont celles de la visite à domicile. On demande un tarif intermédiaire pour toutes les visites urgentes, celles qui sont faites dans des délais brefs. De toute façon, la visite disparaîtra si on ne fait rien. Donc nous, on utilise la seule arme que nous avons à disposition, c'est de montrer ce qui se passerait sans qu'on soit là.
Des propos recueillis par Thibaut U pour Europe 1.
Eux s'inquiètent pour leur santé sur le long terme.
Une centaine de manifestants se sont mobilisés hier devant la préfecture de Seine-Maritime, 2 ans, jour pour jour, après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen et l'épais nuage de fumée noire qui avait surplombé la ville, craignant des effets à long terme sur leur santé. Les associations de victimes veulent la vérité et la transparence, Caroline Baudry.
Le président de l'association des sinistrés de Lubrizol ne lâchera pas l'affaire. Et comme beaucoup de ses voisins, Simon de Carvalho refuse depuis 2 ans de boire l'eau du robinet.
On a senti que le goût il avait changé. Voilà, trop de chlore. Et aujourd'hui, voyez-vous, on vient de me remettre une clé USB. Ce sont les analyses de l'eau qu'on boit, nous riverains. La preuve des pics de pollution en 2019.
Ces analyses seront transmises à la justice dans le cadre de l'enquête ouverte. L'usine a été mise en examen 2 fois, dont l'une pour rejet de substances nuisibles dans les eaux. L'avocate de l'association, Julia Massardier, tente désormais de se procurer un document clé, celui qui recensait avant l'incendie les dangers potentiels liés à l'usine.
La préfecture dispose de ce document et quand je lui ai demandé, ils m'ont fourni un document avec les parties masquées de noir, que des pages manquantes. Nous en avons besoin pour pouvoir saisir le tribunal administratif et questionner la responsabilité de l'État dans ce cadre-là.
Le préfet refuse de fournir le document complet pour des raisons de sécurité. Il rappelle que les milliers de prélèvements réalisés jusqu'à présent sont conformes au seuil de pollution réglementaire.
215 communes de 5 départements sont concernées par les retombées de suie selon Santé publique France, soit 400 000 habitants environ.
On prend maintenant la direction du Royaume-Uni où des voitures par centaines s'agglutinent devant les stations-service dont certaines n'ont plus qu'une goutte de carburant.
Oui, les images dévoilées ce week-end sont frappantes. Le pays est victime d'une pénurie, non pas de carburant mais de chauffeurs pour approvisionner les stations. Et ce n'est pas le seul secteur impacté par ce manque de main-d'œuvre. Certains rayons dans les supermarchés sont vides. Voilà pourquoi le gouvernement britannique est contraint de rappeler des travailleurs européens. Anaïs Cordoba, vous êtes à Londres pour Europe 1. Ce sont 10 500 visas de travail de 3 mois qui vont être octroyés.
Oui, et la moitié de ces visas ira donc aux chauffeurs routiers. 5 000 visas valables jusqu'à Noël. Mais pour le secteur du fret au Royaume-Uni, cette mesure est une goutte d'eau dans l'océan. Écoutez ce patron interrogé hier à la télévision britannique.
C'est trop peu, trop tard. Selon notre association professionnelle, près de 25 000 chauffeurs routiers ont quitté le pays en fin d'année dernière et ne sont pas revenus. Pourquoi le gouvernement n'octroie pas 25 000 visas ? Pourquoi seulement 5 000 ?
Même réaction de la Chambre de commerce britannique qui accuse le gouvernement de ne pas avoir assez préparé l'après-Brexit.
Certaines de nos entreprises ne peuvent pas livrer leurs citrouilles dans les magasins à temps pour Halloween. Dans certains supermarchés, il n'y a plus de pain. C'est à cause de l'absence totale de plan de transition entre la libre circulation et notre situation actuelle.
Les autres 5 500 visas sont destinés à recruter des travailleurs pour les élevages de volailles. Ces éleveurs en manque cruel de main-d'œuvre depuis le Brexit ont prévenu que malgré cette mesure, il fallait s'attendre à une pénurie de dinde à Noël.
Merci Anaïs Cordoba.
Julian Alaphilippe sur le toit du monde.
Et pour la 2e fois de suite, c'est historique. Le cycliste français qui garde son maillot arc-en-ciel s'est imposé à Louvain, en Belgique. Premier français à réussir cet exploit depuis la création du championnat du monde en 1927, le 7e dans l'histoire. Axel May, l'équipe de France de cyclisme lui avait donné des instructions, mais il ne les a pas vraiment respectées.
Oui, il y a une scène qui illustre bien le caractère de Julian Alaphilippe. À son sélectionneur, peu après l'arrivée hier, il lance avec humour « On n'a pas respecté tes consignes ». Réponse de Thomas Voeckler, l'instinct. Le manager de l'équipe de France lui avait dit, dans le final, de suivre les attaques. Mais c'est lui qui s'est porté à l'avant à plusieurs reprises, lui qui a accéléré à l'instinct.
Une victoire comme ça, ici en plus, en Belgique, sur une terre de vélo, gagner de cette manière, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux, donc j'ai juste envie de savourer.
L'instinct, le panache, la générosité dans l'effort, c'est ce qui caractérise Julian, explique son cousin et entraîneur, Franck Alaphilippe.
C'est vraiment Julian, exactement ça, et je pense qu'il aurait vraiment été déçu justement de passer à côté par rapport à la course qu'il a fait, et après tout lui a souri. Ouais.
Et même du côté des supporters belges, qui espéraient pourtant sur leur terre la victoire l'un des leurs, ils étaient plus d'un à saluer l'exploit du désormais double champion du monde.
Mais félicitations à Julian, parce que comme on dit, il roule comme un Belge, il y a le panache à Belgique, et on est fiers pour Julian. Bravo Julian.
Merci Axel May.
Avec le panache de la Belgique, c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h10 sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchy. Et mon pari gagnant sera le 702 Feli Eleven, irrésistible lors de sa dernière victoire le 4 septembre sur l'hippodrome de Vincennes où il s'est imposé à la manière des forts. Je sais qu'il est toujours dans une condition physique optimale et comme il trouve ici des conditions de course idéales et un parcours à son entière convenance, ce trotteur fiable qui sait démarrer devrait pouvoir remporter une nouvelle victoire. Alors notez bien, pour cet après-midi à Rouen-Mocanchy, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 2, Feli Eleven.
Merci Thierry Léger. Et vous revenez dans quoi, 30 minutes à peu près pour les pronostics du Quintet. Vous écoutez Europe 1 et vous restez avec nous. Le pressing ouvre ses portes dans une petite minute.
Oui, voilà, à peu près. Votre revue de presse avec au menu des supporters tatillons sur la musique diffusée dans leur stade. Des traces de pas vieilles de 80 000 ans et un influenceur soupçonné d'avoir détourné 6 millions d'euros du fonds de solidarité. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bienvenue, bon réveil et bon courage en ce lundi matin. Si vous êtes déjà sur la route pour partir au travail, on est là pour vous accompagner, vous informer avec le sourire.
Oui, toujours avec le sourire, ça c'est important. Il est 5h12 et il est temps à 5h12 d'ouvrir le pressing. Quels articles ont retenu votre attention et la nôtre? Nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on jette tout d'abord un œil sur les unes de vos journaux qui sont nombreux à revenir ce matin sur les résultats des élections en Allemagne. Bras de fer pour la chancellerie, titre Le Figaro avec pour illustration le social-démocrate Olaf Scholz et son rival conservateur Armin Laschet, arrivé hier presque à égalité. C'est le Bundeswehr, ironise Libération, alors que les négociations pour former une coalition risquent de durer de longues semaines, voire de longs mois. Un tout autre sujet à la une d'aujourd'hui en France. Alaphilippe reste le roi du monde, titre Le Quotidien au sujet de l'exploit réalisé hier par le coureur français. Sacré, on en parlait à l'instant, champion du monde pour la deuxième année consécutive. Le roi Alaphilippe II salue de son côté l'équipe avec une très belle une. Voilà pour les unes justement. Martin, on commence avec vous.
Oui, avec le retour de la Ligue des Champions demain et une affiche qui fait saliver. Paris-Manchester City, un choc entre les champions de France et d'Angleterre. Mais est-ce que vous savez, Omblin, Julien, quel est le point commun entre ces deux clubs?
C'est Lille, hein.
Oui, pardon, c'est vrai. Excusez-moi. Mais est-ce que vous savez quel est le point commun entre ces deux clubs?
Ils sont détenus par des fonds étrangers.
Oui, mais autre chose peut-être, non?
Non, moi je passe.
La musique.
Ah
ouais.
C'est Phil Collins pour le PSG.
Exactement. C'est, alors d'un côté, Paris, c'est figure de la variété française en tribune depuis toujours, hein, mais pas seulement. Vous savez à qui l'on doit le premier hymne du PSG?
Pas du tout.
Annie Cordy.
Oh, c'est pas vrai.
Allez, Paris, ton équipe est là.
Voilà. Voilà. Oh non, regardez ça.
Voilà. C'est un petit côté quand même vieux jeu, mais bon. Alors de l'autre, Manchester City, hein, le club des frères Gallagher hein, et de la très riche scène mancunienne. Voilà, ça, c'était Oasis, hein, le groupe des frères Gallagher. Et le parallèle hein, ne s'arrête pas là. Les deux clubs ont récemment commis des impairs qui ont mis en run leurs supporters très attachés aux traditions musicales. Alors le 11 septembre, lors de PSG Clermont, le DJ du Parc des Princes n'a pas lancé le traditionnel « Who said I would » de Phil Collins dont vous parliez. Mais un titre un peu plus récent et original de DJ Snake. Ça réveille.
Wow. Je crois que DJ Snake a dit
oui.
Pas ça.
C'était un titre qu'il avait fait pour la présentation de Messi et que le club a réutilisé.
Bien sûr.
Et lui, en tant que supporter du PSG historique, même lui s'est plaint qu'on réutilise
bien
son
sûr.
Titre.
Et puis surtout, il voulait pas prendre la place de Phil Collins.
Exactement. Et voilà, après la diffusion de cette musique, il y a une avalanche de sifflets dans le stade, une pétition en ligne, une immense polémique. Et Phil Collins a très vite fait son retour au Parc des Princes. Et bien, 4 jours plus tard, figurez-vous que c'était le DJ de City qui a fait des siennes, lui aussi, en diffusant un remix de Wonderwall d'Oasis. Là aussi, les supporters ont exprimé leur colère. Deux couacs qui traduisent une volonté commune des deux clubs, placer la musique au cœur de leur stratégie marketing. Alors à Paris, il y avait eu les partenariats avec Prince ou les Rolling Stones. À Manchester, hein, ce maillot qui rappelait la célèbre boîte de nuit mancunienne, l'Hacienda, au lieu de la pop culture.
Qu'on connaît bien.
Vous, surtout
non.
Vous.
Non, pas du tout. Non. Moi, je suis de Liverpool, donc je ne mets pas les pieds à Manchester.
Avec à chaque fois hein, cette même critique, Paris comme Manchester, propriété de riches monarchies du Golfe, hein, le Qatar pour Paris, les Émirats pour City, veulent faire de leur club une marque qui rapporte, quitte à parfois s'asseoir sur l'histoire et les traditions. Avec un bémol tout de même, hein, bien avant le Qatar ou Dubaï, tout changement musical avait déjà le don d'agacer les supporters. C'est ce que rappelle l'ancien directeur marketing du PSG. Hein. Lorsqu'on a choisi Phil Collins, les réactions ont oscillé entre « bof » et « c'est nul ». Si les réseaux sociaux avaient existé, on se serait fait massacrer. Musique, attention aux classiques, hein, c'est à lire dans l'équipe du jour.
Merci Martin. Omblin, on passe à vous.
Et on prend la direction de l'ouest du Cotentin sur la plage du Rosel, un site archéologique assez incroyable. C'est ce qu'on peut lire sur le site du monde.fr. Depuis 2012, on a découvert plus de 2000 empreintes de pieds d'hommes préhistoriques. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Cette dune au bord de la Manche livre constamment de nouvelles traces, comme si on suivait pas à pas ceux qui sont passés par là il y a 80 000 ans. À titre de comparaison, dans son domaine, le site est aussi important que les grottes de Lascaux. Sous 10 000 mètres cubes de sédiments, ce sont d'abord 5 empreintes de pieds conservées dans le sable durci et qui ont été mises à jour, puis des empreintes de mains, et ça c'était une première mondiale, celle d'un enfant qui a dû tomber puis se relever. Plus loin, les archéologues ont trouvé émus les traces de fesses d'un bébé de moins d'un an qui semble là aussi avoir trébuché. Vous imaginez bien que c'est pas simple hein, de découvrir ces traces, elles sont extrêmement fragiles et friables. Et imaginez l'enthousiasme de tous ces scientifiques qui ont appris à lire dans le sable à la différence d'un fossile, une dent, un os ou d'un objet. Figés dans le temps donc, hein, par essence, eh bien, ils ont face à eux un homme préhistorique en plein mouvement et peut-être même tout un groupe de 10 à 15 personnes avec beaucoup d'enfants a priori. Donc on les suit dans l'espace comme si un film défilait devant nos yeux. Mais étonnamment, aucun reste humain n'a été retrouvé sur le bord de la Manche. En tout cas, pas encore. Il a donc fallu réaliser une datation des sables et tout laisse à penser que l'endroit a été fréquenté essentiellement par des hommes de Néandertal. Mais en l'absence d'indices, personne ne peut l'affirmer. Peut-être que Homo sapiens est aussi passé par là. La dune normande n'a sans doute pas encore livré tous ses secrets, c'est à lire dans le journal Le Monde.
Merci Omblin. Intéressant effectivement.
C'est passionnant.
J'ai choisi pour ma part un article à lire dans Aujourd'hui en France intitulé « L'influenceur qui escroquait l'État ». Je vous présente donc Paul A, alias PA7 sur les réseaux sociaux, un jeune homme de 24 ans au teint hâlé qui se met en scène au volant de bolides de luxe dans des palaces 5 étoiles ou encore en compagnie de lions dans un zoo à Dubaï, la terre d'exil préférée des influenceurs français. C'est d'ailleurs là que le rêve bling bling s'est brusquement arrêté pour lui il y a quelques semaines, on va y revenir. Mais avant, revenons au commencement, les premiers et deuxième confinement en 2020. Un coup d'arrêt pour des millions de Français, un coup en or pour notre cher PA7. Il comprend très vite que le fonds de solidarité pour les entreprises comporte des failles. L'État a ouvert les vannes de l'argent public et face à l'urgence, il n'y a que peu ou pas de vérification. Une aubaine pour cet influenceur qui inonde donc les réseaux sociaux avec ce message. Vous voulez des aides Covid, mais votre secteur d'activité n'est pas concerné. Eh bien, j'ai une solution. Envoie-moi un message. Je te montre ton dossier. C'est carré. Le principe de l'arnaque est assez simple. Une fois qu'il a récupéré les identifiants du site des impôts de ses abonnés, PA7 dépose une demande de fonds de solidarité en leur nom, mais en remplaçant leur secteur d'activité par ceux éligibles aux aides comme l'événementiel ou la restauration. Au passage, il gonfle le chiffre d'affaires de 2019 pour faire croire à une perte de revenus en 2020 à cause de la pandémie et le tour est joué pour notre escroc qui n'oublie pas au passage de réclamer à ses clients 30 à 50% du montant de la subvention. Voilà comment au printemps dernier, les policiers découvre à la faveur d'un banal contrôle du fisc qu'un livreur Uber Eats des Yvelines a perçu 16 000 euros d'aide en déclarant ses activités dans la catégorie art et spectacle vivant. C'est le point de départ de l'enquête. Il est aujourd'hui établi qu'au moins 657 auto-entrepreneurs et gérants ont fait appel aux magouilles de PA7 pour un total, tenez-vous bien, de 5,8 millions d'euros versés par l'État. Un argent facile qui monte vite à la tête de l'influenceur, verbalisé pour excès de vitesse lors du deuxième confinement. Il lâche aux agents « Allez, je m'en fous, j'ai de l'argent et de toute façon je pars à Dubaï ». C'est donc depuis les Émirats Arabes Unis que PA7 continue son arnaque XXL. Le 1er avril dernier, au lendemain du discours d'Emmanuel Macron annonçant de nouvelles restrictions, notre flambeur véreux se filme. Nous sommes reconfinés pour un mois, cela veut dire que les aides Covid continuent, que les caisses vont se remplir et qu'on va pouvoir leur prendre des sous. Oui, mais plus pour longtemps. 5 mois plus tard, fin août, le jeune homme est arrêté puis expulsé de Dubaï. Il a immédiatement été mis en examen puis écroué à son retour à Paris. Muet face aux enquêteurs, PA7 a tout de même trouvé le temps de changer sa biographie sur Snapchat pour ajouter « actuellement en prison », le tout avec un émoji de vautour. Je pense que tout est dit.
Merci beaucoup Julien, on referme le pressing et Martin, vous revenez dans 40 minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
5h20 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce lundi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Les sociaux-démocrates remportent les législatives allemandes. Les résultats officiels mais provisoires sont tombés il y a quelques minutes. Ils ont obtenu 25,7% des voix. Le Clairefontaine ou le Marcoussis de la cuisine, ce sera dans la région lyonnaise. Emmanuel Macron a annoncé hier soir la création d'un centre d'excellence de la gastronomie française. Un chiffre très inquiétant dévoilé par Europe 1 ce matin, près d'un tiers des moins de 24 ans auraient déjà eu des pensées suicidaires. Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie s'ouvrent d'ailleurs aujourd'hui et pour deux jours pour dresser un état des lieux.
Il est 5h21 sur Europe 1. Comme chaque matin à cette heure-ci, on donne la parole à celles et ceux qui s'engagent et font bouger les lignes. Ce sont les initiatives en France.
Bonjour Christophe Rocasera.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le PDG et fondateur de Talano Technologies, une société qui pense à notre santé, puisque vous avez mis au point un système qui capte les particules fines émises par nos voitures. Et surprise, ce n'est pas au niveau du pot d'échappement que ça se passe. Expliquez-nous.
Effectivement, on a développé une technologie donc pour capter les particules qui sont émises par les systèmes de freinage, en sachant qu'aujourd'hui, le système de freinage de votre véhicule est la première source d'émission des microparticules, assez loin d'ailleurs devant le pot d'échappement, puisque vos freins émettent 6 fois plus de particules que votre pot d'échappement.
Il faut rappeler que la pollution aux particules fines provoque la mort de 40 000 personnes en France chaque année, c'est considérable.
Alors, c'est considérable. On parle toujours de mort prématurée, mais il n'y a pas que ça. Il y a également tout un ensemble de pathologies qui sont développées, qui n'entraînent pas forcément la mort directement, comme la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, pour lesquelles on sait que les particules de frein ont un lien.
Parce qu'elles remontent dans le cerveau, c'est ça? Elles se logent dans les cellules?
Oui, malheureusement, on a des particules qui sont ultra fines, dont la taille va descendre jusqu'à 10 nanomètres. Alors, 10 nanos, ça ne parle pas à grand monde. 10 nanos, c'est la taille d'un virus. Donc, elles vont vraiment rentrer extrêmement profondément dans l'organisme. En période de pandémie, tout le monde sait de quoi on parle. Un virus, ce n'est arrêté par aucune barrière, malheureusement, de l'organisme. Et donc, ça va pénétrer très profondément. On les retrouve, là encore, dans les cellules nerveuses, dans les cellules du cerveau, des gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson.
Justement, comment vous les captez, ces microparticules? Comment fonctionne votre système?
Le principe est assez simple. En fait, on fait ce que l'on appelle de l'aspiration à la source. On vient loger, en fait, directement dans les plaquettes de frein, un petit aspirateur qui vient aspirer directement là où elles sont émises, ce qui évite qu'elles ne se disséminent.
Et ça capte toutes les poussières, toutes les particules fines? Quel est le taux d'efficacité?
On a en fait des taux d'efficacité qui sont assez élevés, puisque on va jusqu'à 90% des particules émises qui sont captées. Et ce taux, on l'atteint sur des parcours urbains. Alors ça tombe bien parce que c'est là où vous freinez majoritairement et c'est là où il y a des concentrations de population les plus importantes. Et là où le problème se pose de manière la plus aiguë. Sur certains tests, des performances sur lesquelles on est allé au-delà à 95-97%. Et les particules ultra fines sont pratiquement entièrement absorbées par le système.
Et c'est un système que je peux installer demain sur ma voiture, ou il faut qu'elle ait été conçue avec cet équipement?
Alors, il faut qu'elle ait été conçue avec cet équipement. Hein. Le frein, comme vous pouvez l'imaginer, est l'organe majeur de sécurité d'un véhicule, donc on ne peut pas y toucher de cette façon. Donc il faut que ce soit homologué, bien entendu, et garanti par le constructeur. Donc tout ça va s'insérer dans la future norme Euro 7, qui arrivera dans quelques années et qui prendra comme sujet les particules de frein. Il y aura effectivement l'obligation d'avoir des freins qui émettent beaucoup moins à ce moment-là.
Donc, j'imagine que les constructeurs anticipent cette future norme Euro 7, donc ils sont en discussion avec vous pour éventuellement adapter votre système à leur future voiture?
Pas tous, hein. Certains ont d'autres technologies qu'ils développent, mais on en a plusieurs effectivement avec lesquelles on travaille de manière importante. Ça c'est pour l'automobile, et puis l'autre point qui est le ferroviaire, puisque un train ou un métro, ça a également des freins à friction et ça émet de la même façon. Donc là, on est déjà en test sur la ligne C du RER à Paris, celle qui suit la Seine, et on fait ça en collaboration donc avec la SNCF et la région Île-de-France.
Comment vous est venue cette idée de capter les particules fines des freins de nos véhicules?
C'est un peu du constat d'utilisateur. Moi, je travaillais dans la finance à l'époque et j'avais un véhicule de fonction qui dysfonctionnait, dont le train avant en fait était mal équilibré. Donc c'était un véhicule qui consommait beaucoup de pneus et beaucoup de freins. Je changeais mes pneus et mes freins tous les 10 000 km à peu près. Donc la conséquence, c'est que j'avais ces espèces de jantes noires avec cette pellicule noire qui vient se coller, qui sont des particules en fait. C'est ce que vous ne respirez pas qui vient se coller sur les jantes. Et comme je l'utilisais pour aller chez mes clients, ben, je passais régulièrement à la station de lavage et ça m'énervait parce que je trouvais que c'était complètement aberrant. Et quand j'ai découvert qu'au-delà du problème purement esthétique, il y avait un problème sanitaire et environnemental qui était très sérieux, j'ai décidé en fait de me pencher sur le sujet, de prendre contact avec des équipes de recherche, de recruter des ingés et de développer la techno qui est aujourd'hui protégée par 27 brevets qu'on dépose dans une douzaine de pays dans le monde.
Eh ben, on vous souhaite beaucoup de succès en tout cas. Merci beaucoup Christophe Rocasera d'avoir été en ligne avec nous ce matin et d'avoir trouvé cette solution pour capter les particules fines émises par les freins de nos voitures mais aussi de nos trains. On espère qu'elle sera rapidement mise en place. Je rappelle le nom de votre société, Talano Technology. Bonne journée et à bientôt.
Merci, très belle journée à vous. Au revoir.
Europe Matin.
Lately I've been counting stars, and I'm sorry that I broke your heart. It's something that I didn't want for you, but I'm stepping on broken glass, and I know this is my final choice. All I'm trying to do is find my path to you. I got voices in my head and there's a deafening silence. I got voices in my head and I can lie. I've been holding on to pieces, swimming
arrive de Bedford au centre de l'Angleterre. C'était Tom Grennan sur Europe 1 avec Little Bit of Love, titre extrait de son deuxième album Evering Road, qui n'est autre que l'adresse londonienne du chanteur anglais. Il est 5h28 sur Europe 1. Bon lundi et bon réveil avec nous. Et cette bonne nouvelle pour débuter la semaine, Ombline, les Français sont de plus en plus généreux et solidaires.
Oui, alors ne soyez pas surpris, et ce malgré les crises et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. L'Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France vient d'établir son deuxième panorama national des générosités. Et elle progresse, cette générosité, depuis 15 ans. En 2019, en France, elle a atteint les 8,5 milliards d'euros des dons sous toutes leurs formes, provenant de particuliers et des entreprises. Ils s'adressent majoritairement aux organismes de santé et de solidarité, mais pas seulement. On en parle dans 10 minutes avec Axel Davezac, la directrice générale de la Fondation de France.
Mais avant tout cela et le journal qui arrive, jetons un œil aux cartes météo avec vous Anissa Haddadi, et c'est pas terrible au nord aujourd'hui. Hein.
Non, ce matin sur la Normandie, sur le Cotentin, sur les Pays de la Loire, hein, donc vous l'avez compris, sur le nord-ouest, on a un temps qui est assez pluvieux. Sur toute la moitié nord, c'est couvert, avec attention sur les Hauts-de-France, la région parisienne, le Grand Est, de nombreux nuages bas et beaucoup de brouillard ce matin. Sur la moitié sud, en revanche, la journée commence avec de belles éclaircies. Et puis alors, dans l'après-midi, la perturbation pluvieuse, elle avance, avec des Ardennes jusqu'à l'Auvergne, un temps couvert et pluvieux cet après-midi. À l'avant de la perturbation, de l'Alsace jusqu'à la Côte d'Azur, là on aura du soleil. Et puis à l'arrière, sur le grand quart nord-ouest, là où il pleuvait ce matin, et bien cet après-midi, c'est le retour de belles éclaircies avec, attention, le premier gros coup de vent de la saison, avec des rafales jusqu'à 100 km/h sur les côtes du Finistère ou de la Manche. Alors à 5h du matin, on avait 12 degrés à Dijon, 14 à Nancy, 16 à Marseille et Paris, 18 à Cherbourg, il fait doux. Cet après-midi, ça va baisser au nord avec 18 degrés à Brest, 20 à Paris, 22 à Nancy. Dans le sud, il fait très bon, 27 à Marseille et 29 pour Perpignan.
Merci Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, votre journal. Il est 5h30.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Emmanuel Macron voit grand pour la cuisine française. Le chef de l'État en déplacement à Lyon annonce la création d'un centre d'entraînement et d'excellence pour défendre la gastronomie française à l'international. Les élections législatives en Allemagne, le SPD d'Olaf Scholz et la CDU-CSU d'Armin Laschet sont au coude à coude. Les deux principaux partis revendiquent le droit de gouverner. Éric Zemmour continue d'entretenir le suspense pour la présidentielle. Invité du grand rendez-vous d'Europe 1 hier, le polémiste réserve toujours sa réponse, mais il a conscience conscience qu'un renoncement pourrait être perçu comme une trahison. Et puis la psychiatrie va mal, elle tient ses assises aujourd'hui et pour deux jours, mais le constat est accablant. Entre manque de moyens et dégradation de la santé mentale des Français, 30% des moins de 24 ans ont eu des pensées suicidaires selon cette enquête. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. La visite d'Emmanuel Macron se poursuit à Lyon. Le président se rendra aujourd'hui au CIRA, le salon international de l'hôtellerie et de la restauration. La gastronomie qui est au cœur du déplacement du chef de l'État. Cela a commencé dès hier avec le dîner des grands chefs. 200 des plus grands noms de la cuisine et de la pâtisserie française réunis autour de la table. Il en a profité pour annoncer la création d'un centre d'entraînement et d'excellence. En retour, ces derniers lui ont demandé de baisser leurs charges pour pouvoir embaucher. Jean-Luc Boujon.
Pour les chefs présents hier, il n'était pas question de demander de nouvelles aides au président de la République. L'heure était au contraire au remerciement pour le soutien financier accordé durant toute la crise sanitaire. Malgré tout, aujourd'hui, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui pénalise fortement tous les métiers de bouche. Sébastien Bouillet, le pâtissier lyonnais qui avait hier préparé le dessert du président, un segment d'agrumes et son financier croustillant, lui demande aujourd'hui un effort sur les charges.
Il faudrait qu'on ait les moyens de plus payer nos employés en ayant moins de charges. On le fait, nous, au quotidien. Moi, j'ai énormément augmenté mes salaires entre l'avant-Covid et après-Covid pour attirer le maximum de gens. Et je pense qu'il faut plus nous aider là-dessus et nous baisser nos charges, en fait.
Même discours pour Christophe Marguin, chef aux 33 cités à Lyon.
Il nous manque 12 salariés sur 33. Je pense que la solution, elle n'est pas très compliquée. Nous, dans nos restaurants, on nous enlève 20% de charges. Les 20% de charges, on les donne net à nos salariés. Il y a 1 million d'emplois à pourvoir aujourd'hui en France. On a besoin de gens pour que l'activité reprenne.
Christophe Marguin qui a aussi une autre demande.
S'il pouvait nous annoncer que le pass sanitaire soit encore un petit peu plus levé, que les gens aient encore un petit peu plus de liberté. Ça serait déjà merveilleux.
Des demandes qui seront à nouveau exprimées par la profession au président lors de sa visite tout à l'heure au Salon de l'alimentation et de la gastronomie. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Emmanuel Macron qui, par ailleurs, a suivi très attentivement hier soir les résultats des élections législatives en Allemagne. Les deux principales forces politiques sont au coude à coude.
Et chacune revendique le droit de former le futur gouvernement de coalition. Le SPD d'Olaf Scholz recueille 25,7% des voix. Mais son adversaire de la CDU, Armin Laschet, obtient 24,1%. Les discussions ne font que commencer et il faudra négocier avec les Verts et les libéraux pour espérer gouverner. Résultat ce matin, l'incertitude reste totale, un peu comme si les Allemands avaient choisi de ne pas choisir. Reportage de Bélina Fachin à Stuttgart.
Laura et Marius, la vingtaine, ont voté tous les deux à gauche. Elle pour le petit parti satirique, le Partei, lui pour les Verts, arrivé troisième, avec un objectif commun, ouvrir une nouvelle page de l'histoire de l'Allemagne.
Les résultats montrent clairement que les gens veulent du changement. Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il n'y a plus de glauco, les deux gros partis ensemble. Mais bon, je pense que le prochain chancelier sera Olaf Scholz, parce qu'il a le plus de voix. Personne n'aime Laschet.
Oui, oui, c'est vrai. Je pense aussi que ce sera Olaf Scholz.
Olaf Scholz, c'est le candidat social-démocrate contre eux. Armin Laschet, le dauphin d'Angela Merkel à la CDU. C'est lui, justement, que Florian espère voir à la chancellerie. Il aimerait que rien ne bouge, que les discussions post-électorales permettent aux deux grands partis traditionnels de rester au pouvoir.
J'espère qu'on va faire une belle coalition avec le SPD. Ils font du très bon boulot ensemble. Mais ça va être très serré, hein. Ils vont devoir compter chaque voix.
Et cette incertitude est pour l'instant la seule chose acquise du scrutin. Stuttgart, Mélina Fachin, Europe 1.
C'était l'un des derniers États en Europe à interdire l'avortement. La République de Saint-Marin légalise l'interruption volontaire de grossesse à l'issue d'un référendum. Le oui l'a emporté à 77%. Les femmes pourront avoir recours à une IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse.
On en vient à la campagne pour la présidentielle. Éric Zemmour continue d'entretenir le mystère sur une possible candidature.
On pourrait appeler ça la politique des petits pas. Le polémiste était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews hier soir. Il n'a toujours pas dit s'il sera candidat à la présidentielle. Mais il a conscience qu'un renoncement pourrait être perçu comme une trahison. Éric Zemmour, qui n'est pas tendre avec les Républicains, accusé d'avoir trahi De Gaulle.
Aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce que c'est que devenu LR. C'est un parti de notables centristes qui après prétendent que je ne partage pas leurs valeurs. Mais eux-mêmes, en quoi partagent-ils les valeurs du RPR et de la droite d'avant? Non, ils ont eux-mêmes trahi le général De Gaulle et même Georges Pompidou. Voilà.
Est-ce que vous pouvez ne pas y aller? Non, mais c'est une vraie
est-ce
question.
Est-ce que je peux ne pas y Mathieu aller Bocquet. Oui, je peux toujours ne pas y aller.
Et décevoir tous ceux à qui mais vous effectivement, dites, c'est je maintenant déce... ou jamais. Non,
mais, si je n'y allais pas, je décevrais à Yes beaucoup de gens. Ça, c'est sûr. Bon. Et vous avez raison, ça sera pris comme une désertion, une trahison, etc. Ça compte dans ma prise de décision. Oui.
Éric Zemmour, invité du grand rendez-vous européen CNews hier avec Sonia Mabrouk. Ségolène Royal espérait peut-être faire du scrutin des sénatoriales des Français de l'étranger un tremplin vers une éventuelle candidature à l'Élysée. L'ancienne ministre a été sévèrement battue. Sa liste n'a recueilli que 11 voix sur 533.
La crise sanitaire, le recul de l'épidémie se confirme.
Moins de 6000 cas positifs par jour en moyenne sur la semaine écoulée. Le taux d'incidence fléchit lui aussi. Il est de 61 au niveau national, mais une majorité de départements sont désormais sous le seuil d'alerte fixé à 50. Le Premier ministre Jean Castex qui confirme par ailleurs dans une interview à la fin de la gratuité des tests de dépistage au 15 octobre, sauf avis médical ou pour les personnes vaccinées. La facture totale du Covid coûtera entre 170 et 200 milliards d'euros à la France, selon le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt.
Les conséquences de cette épidémie sont aussi psychologiques. Les assises de la santé mentale s'ouvrent aujourd'hui et le constat est alarmant.
Ouais, c'était une volonté d'Emmanuel Macron faire un état des lieux du secteur. Il n'est pas brillant, souvent décrite comme le parent pauvre de l'hôpital. La psychiatrie attend beaucoup du chef de l'État. La profession est au bord de l'implosion entre manque de personnel et absence de moyens en général. On frôle parfois l'indigence malgré le dévouement des soignants. Reportage au GHU, groupement hospitalier, psychiatrie et neurosciences de Paris, Marion Gauthier.
La demande a doublé en 20 ans. Donc les moyens devraient pouvoir suivre.
Plus de souffrance, moins de médecins pour l'apaiser. Dans l'hôpital de jour où le docteur Christophe Libert accueille des enfants de 4 à 12 ans présentant des troubles graves du développement, principalement de l'autisme.
Les enfants sont négligés. On ne s'occupe pas assez d'eux.
En témoigne Catherine Laval. 2 ans que l'équipe de cette pédopsychiatre a fondu de moitié. Le nombre de petits patients a dû être divisé lui aussi par 2.
Les gens qui ont bac plus 5, ils n'ont pas envie de toucher 1 300 euros par mois. Les orthophonistes en libéral gagnent 4 fois plus.
On est obligé aujourd'hui de faire un tri dans nos files d'attente. Un tri.
Pourtant, Catherine Zitoun se bat contre le temps et suit 150 patients. Elle est pédopsychiatre et chef de pôle au GHU Paris.
J'ai une demi-heure pour résoudre un problème d'un enfant qui a des gros troubles du comportement. Et j'ai plus d'autre solution que de lui donner un traitement médicamenteux, ce que je n'aurais pas fait il y a 10 ans. Attention, hein, on est loin de prescrire à tour de bras, mais c'est difficile. Ces 3-4 dernières années, je sens au fond de moi un enfant qui pleure.
Il faut une volonté politique, insiste-t-elle, pour réparer les adultes de demain.
Marion Gauthier. Le sport, Julien Alaphilippe entre dans l'histoire du cyclisme. Il devient le premier Français à conserver son maillot de champion du monde. Il s'est imposé hier en solitaire en Belgique après s'être échappé à 17 km de l'arrivée. Puis en football, Lens prend la 2e place du classement à Marseille après sa victoire 3-2 face à l'OM au Vélodrome hier soir.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On retrouve maintenant Thierry Léger pour les courses et ses pronostics du quintet. Bonjour Thierry.
C'est sur l'hippodrome de Rouen-Moucanchy que se disputera ce quintet. Et parmi les 16 trotteurs qui en découdront sur la courte distance de 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart, je n'ai pas hésité à faire confiance au numéro 11, Kit Wood, qui nous arrive de Suède, précédé d'une flatteuse réputation et qui effectuera ses débuts en France avec de légitimes ambitions jugées sur ce qu'il a réalisé chez lui dans son pays. On lui opposera les numéros 10, comme un Hugo, sachant finir ses courses et qui sera avantagé par la longue ligne droite de l'hippodrome de Moucanchy. 4 Eagle Pass, rarement déféré des 4 pieds et toujours très performant dans cette configuration. Et 12 Vicky Lakshmi, visiblement doué et qui ne court qu'à bon escient. Enfin les numéros 2, Eros de Joude, 1 Efaro, 8 Elmer du Belvert et 14 Étoile d'Éole compléteront ma sélection. Mon pronostic, 11, 10, 4, 12, 2, As, 8 et 14.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h39, vous restez avec nous. On va s'intéresser dans un instant à la générosité des Français. Et contrairement aux idées reçues, eh bien, elle se porte très bien. Bon réveil sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bon début de matinée, il est 5h41 et les Français sont de plus en plus généreux et solidaires. C'est ce que nous apprend le deuxième panorama de la générosité établi par l'Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France. Les dons ont atteint 8,5 milliards d'euros en 2019. C'est 1 milliard de plus qu'en 2015 lors de la première édition de ce baromètre. On en parle en ligne avec Axelle Davezac, la directrice générale de la Fondation de France.
Bonjour Axelle Davezac.
Bonjour.
La générosité des Français progresse depuis près de 15 ans. Alors Julien le disait, dans notre pays, on a donné 8,5 milliards d'euros en 2019. Précisons que cette étude menée par la Fondation de France prend en compte toutes les formes de dons déclarés ou non provenant des particuliers et des entreprises, quel que soit le mode de collecte. Axel Davezac, j'ai d'abord envie de vous demander, qu'est-ce que ça dit de notre société ?
Eh bien, ce panorama, il est porteur d'une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, alors comme vous l'avez dit, c'est une étude qui est tout à fait unique puisqu'elle rassemble la totalité des données existantes et quelles que soient les formes de générosité. Je m'y arrête un instant parce que quand on pense générosité, on pense don d'argent, mais on oublie souvent les legs, on oublie souvent tout le mécénat en nature, on oublie les nouvelles formes de générosité. Et ce que ça dit, c'est que les Français sont généreux et malgré les difficultés, les Français finalement ont une conscience de plus en plus forte que, au-delà de l'action des pouvoirs publics, la générosité privée est indispensable pour le ciment de notre société. La deuxième chose que ça dit, c'est également un signal de confiance très fort envers les associations et les fondations qui œuvrent pour l'intérêt général, puisque cette générosité augmente, comme vous l'avez dit, parce que en complémentarité avec l'État, les associations et les fondations, elles ont une grande agilité, elles ont une capacité à inventer des nouvelles solutions, à expérimenter et à vérifier que finalement, face aux différents problèmes que nous connaissons dans le secteur de l'éducation, de la culture, de la recherche, de la santé, de la prise en charge des personnes vulnérables ou des enjeux liés à la lutte contre le réchauffement climatique, ces acteurs de terrain, ils peuvent proposer des solutions pour qu'ensuite, elle soit reprise à beaucoup plus grande échelle.
1 milliard d'euros de plus qu'en 2015, l'augmentation est significative. Qui sont les principaux donateurs ?
Alors, cette générosité, en fait, elle se divise en deux grandes parties, la générosité des particuliers et la générosité des entreprises. La générosité des particuliers, elle représente 5 milliards d'euros et celle des entreprises, 3 milliards et demi. Les donateurs en France, ceux qui déclarent les dons, en tout cas en majorité, parce qu'il y a beaucoup de dons qui ne sont pas déclarés non plus, elle est en majorité venue des Français les plus âgés, c'est-à-dire les plus de 70 ans. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes les nouvelles formes de connect, que ce soit les campagnes de crowdfunding sur Internet, que ce soit les arrondis en caisse, les arrondis sur salaire, ces nouveaux modes de collecte, en fait, ils attirent des donateurs plus jeunes qui préfèrent finalement insérer leur générosité dans leurs actes du quotidien. Du côté des entreprises, le mécénat d'entreprise s'est développé d'une manière absolument extraordinaire depuis 10 ans. Là aussi, ça témoigne de l'idée que les entreprises ont conscience qu'elles doivent aussi s'engager très souvent dans leur territoire pour l'intérêt général. On a une croissance extrêmement forte, notamment de l'engagement philanthropique des plus petites entreprises et des petites entreprises, puisque leur mécénat est passé de 30 à 100 millions d'euros en 5 ans.
Votre étude porte sur 2019. Depuis, le monde a connu une pandémie. Croyez-vous que cette dynamique va se maintenir ?
Alors, je peux vous dire que cette dynamique s'est maintenue et c'était face à l'océan de difficultés que nous avons connu en 2020, vraiment une très bonne nouvelle et extrêmement positive, c'est-à-dire que tout le secteur craignait au moment du premier confinement au mois de mars 2020 une chute très forte de la générosité, les gens étant fort naturellement inquiets pour eux, pour leur famille, pour leur avenir. Et il s'est passé tout l'inverse, c'est-à-dire que la générosité en 2020 a progressé très fortement puisque globalement pour le secteur, l'étude qui a été menée par France Générosité montre que les dons ont augmenté de près de 14% en 2020. Ce que ça dit, c'est que je crois les Français ont conscience malgré toutes les difficultés que face à des enjeux collectifs, c'est bien en s'engageant chacun à sa manière avec les moyens dont il dispose, de l'argent, du temps, du bénévolat de compétences, on peut contribuer à l'intérêt général parce que c'est ça aussi qui construit le ciment de notre société.
Merci beaucoup, Axel Davezac, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fondation de France. Merci.
Merci à vous.
Il est 5h47 sur Europe 1 et c'est l'heure de retrouver la généreuse Margot Barallon, généreuse en conseil culture. Bonjour Margot.
Bonjour tout le monde.
Margot, comme chaque lundi, vous nous conseillez une série. Laquelle avez-vous choisie aujourd'hui ?
Une série documentaire à voir sur Netflix, ça s'appelle Untold, ou l'envers du sport en français. Et c'est une plongée en 5 épisodes dans 5 histoires, marquantes chacune à leur manière, mais méconnues, du sport américain.
Quelles histoires, par exemple ?
Vous avez comme ça un épisode consacré à une bagarre générale qui a éclaté en 2004. C'était entre des joueurs et des fans de basket pendant un match de NBA.
Si vous connaissiez l'histoire et l'impact que ça a eu sur tout le monde, vous ne poseriez pas ces questions.
Je veux que les gens voient la vérité, image par image.
Montrez-leur tout. Que les gens se fassent leur propre opinion.
Et c'est ça la promesse de ce documentaire, tout montrer, tout raconter via les principaux protagonistes qui n'ont parfois jamais été entendus. Un autre épisode s'intéresse par exemple à Christy Martin, alors vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'elle, et pourtant c'est la boxeuse qui a lancé la boxe féminine aux États-Unis grâce à la retransmission sur le câble d'un combat mémorable. Nous sommes en 1996.
Elles ont montré au monde entier que deux femmes étaient capables de combattre, de cogner fort et de saigner sans rien lâcher, round après round.
Elles sont déchaînées.
C'était incroyable de voir le public s'enflammer.
Il est clair que ces deux jeunes femmes n'ont pas été payées à la hauteur de leur performance.
Et Netflix raconte toute l'histoire derrière les victoires de Christy Martin, notamment sa relation avec son entraîneur avec lequel elle s'est mariée et qui l'a maltraitée pendant des années avant de tenter de la tuer. C'est glaçant, fascinant et c'est Netflix, donc c'est très très bien réalisé.
C'est vrai que la plateforme a beaucoup développé les documentaires sportifs. On pense par exemple à la série Formula One sur la F1.
Ils ont vraiment, chez Netflix, cette maîtrise de la scénarisation. Et puis surtout, ils arrivent à captiver même les néophytes. Ça se voit encore avec l'envers du sport, parce que ce que raconte la série, ce n'est pas que du sport. C'est aussi une certaine histoire de l'Amérique. Je pense que l'épisode le plus dantesque, c'est celui sur les Thrashers, une équipe de hockey de Danbury, fondée par un mafieux, Jimmy Galante. Et en fait, cette équipe, elle servait à blanchir de l'argent.
Quand l'agent m'a dit, il discutait avec le patron de l'équipe, Jimmy. Ils veulent payer en liquide. Comment ça en liquide ? Bah, ils veulent littéralement te donner un sac plein d'argent. Attends, quoi ?
Et donc voilà, au fil des épisodes, on découvre là ce Connecticut gangréné par la pègre, dans un autre, la Virginie occidentale, ancienne région de mineurs complètement sinistrée. Il y a aussi une réflexion sur la culture de la gagne, avec l'épisode consacré au tennisman Marty Fish, un des premiers à avoir parlé de la santé mentale dans le sport. Et enfin, je vous conseille celui sur Caitlyn Jenner, qui est née Bruce Jenner, a été champion olympique de décathlon avant de devenir une femme. Ça aussi, c'est une part de l'histoire américaine.
Merci Margot Barra. Allons, ça s'appelle donc Untold ou l'envers du sport en français. C'est à voir sur Netflix.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
C'est tellement bien qu'on en perd sa voix. Le journal permanent à 5h50, l'essentiel de l'actualité avec Alban Le Prince.
L'après Merkel, incertain puisque le Parti social-démocrate allemand remporte les législatives avec 25,7% des suffrages. Résultat d'un décompte officiel provisoire annoncé ce matin. La CDU recueille 24,1% des voix, le pire résultat de son histoire. SOS médecins injoignable dès 8h et jusqu'à demain matin. La Fédération de médecins libéraux réclame plus de moyens et dénonce ce qu'elle appelle la fin programmée des visites à domicile. Jean Castex confirme la fin de la gratuité des tests dits de confort au 15 octobre. Le Premier ministre a précisé hier qu'ils continueront d'être remboursés pour raisons médicales et sans prescription pour les personnes vaccinées. Et puis la première défaite de la saison pour Marseille hier en 8e journée de Ligue 1. L'OM qui laisse sa place de dauphin à Lens après avoir été battu 3-2.
Europe Matin.
L'actualité s'écrit aussi au plus près de chez vous, dans vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit. Et ce matin, Julien, nous sommes sur la Côte d'Azur.
Bonjour Patrice Maggio.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le directeur adjoint des rédactions du groupe Nice Matin qui va publier toute cette semaine des articles, témoignages, reportages sur le premier anniversaire de la tempête Alex. Tempête, je le rappelle, au bilan humain très lourd, 10 morts et toujours 8 disparus et des scènes de dévastation toujours visibles dans les vallées de l'arrière-pays niçois.
Et aujourd'hui, on se pose la question, partir, rester, revenir. C'est le grand dilemme de milliers d'habitants dans les vallées qui avaient été sinistrées. Vous savez, en quelques heures, simplement, leur vie a été entièrement broyée, chamboulée. Pour un certain nombre d'entre eux, il n'y a pas eu deux choix que de partir parce que leur maison a été vraiment réduite en miettes. On prend d'ailleurs ce matin l'exemple de ce couple, Franck et Marie-Christine. Ils sont dans un petit village dans la vallée de la Roya, à Saint-Dalmas-de-Tende. Ils avaient mis 7 mois à construire leur maison. Elle était vraiment flambant neuve et elle est tombée par terre. Ce sont des gens qui sont évidemment très en colère contre les assureurs d'abord parce qu'ils ne savent pas à quelle hauteur ils seront précisément indemnisés et aujourd'hui ils se posent la question où revenir. Est-ce que c'est sur place ou est-ce que c'est dans un village aux alentours? Ça c'est la première catégorie de gens. Il y a des gens qui sont encore sur place dans des maisons qui sont souvent intactes mais qu'ils vont devoir quitter parce que maintenant c'est trop dangereux de rester là. Là on a rencontré Jacqueline, une infirmière à la retraite. Ça fait un demi-siècle qu'elle est sur place et on lui dit « il faut partir », elle ne sait pas où. Est-ce que c'est à l'hospice ou dans un endroit à part? Voilà, donc beaucoup de témoignages.
Cette question des assurances, elle revient souvent d'ailleurs. Je pense à cette gérante d'écurie dont vous avez recueilli le témoignage, dont l'outil de travail a été totalement rayé de la carte il y a un an et qui n'a reçu que 30% de la valeur de son bien.
Exactement. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle n'est même plus dans les Alpes-Maritimes parce qu'elle ne sait plus où se réinstaller. C'était une jeune fille qui se prénomme Adélaïde. Elle vit à Roquebilière. C'est une des 3 vallées les plus touchées. C'est dans la Vésubie. Et cette nuit-là, elle avait non seulement sauvé ses 6 chevaux de course, mais aussi les chevaux de ses voisins. Et aujourd'hui, on lui propose effectivement 30% de la valeur de ses biens. C'est largement insuffisant pour elle. Donc, elle fait appel à la solidarité de gens du BTP pour l'aider à reconstruire son écurie, même si probablement ce ne sera plus dans ce département.
Et à l'inverse de ces sinistrés, vous avez trouvé des familles qui comptent déménager dans ces vallées, et ce malgré les dégâts et la menace qu'une nouvelle tempête déferle un jour.
Imaginez le marché immobilier dans ces vallées qui ont été détruites. On est allé rencontrer Nadia, c'est une agent immobilier dans la vallée de la Roya qui nous explique fort bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'évidemment tous les projets d'acquisition ont été stoppés, les offres financières ont énormément chuté et pour autant il n'y a pas beaucoup de biens disponibles aujourd'hui. Alors dans ce marché-là, il y a pourtant des gens comme William, un capitaine de yacht qui s'installe avec sa famille à la brigue. Eux, ils ont trouvé un endroit et ils rappellent à cette occasion que ces vallées-là, c'est un véritable paradis. Avant et après Alex, on n'a qu'une envie, c'est d'y vivre parce que c'est un environnement plus simple, plus sain, où on peut se projeter, construire une vie avec ses propres enfants.
Merci infiniment, Patrice Maggio, de nous avoir présenté cette série d'articles sur le premier anniversaire du passage de la tempête Alex. Reportage et sujet à lire donc chaque jour, cette semaine, dans les pages de Nice Matin. Bonne journée et à très bientôt.
Bonne journée et à bientôt.
Il sera en tournée dès le mois d'octobre pour présenter sur scène la réédition de son dernier album qui est sorti en mars. Est-ce que tu sais qu'il sera édité dans quelques semaines à peine? Gaëtan Roussel sur Europe 1.
Rien ne s'efface, tout reprend sa place, les silences, les boumangs ou la mer prennent tout le temps nécessaire, tout se rejoint, tout n'est que va et vient, tout s'envole. Au lointain, regarde les conifères, prennent tout le temps nécessaire. S'il faut, regarde en arrière, ou loin devant le mystère. Une seconde où la vie entière, c'est si beau quand les choses prennent tout le temps. Hier, tu disais on se ressemble, on est fait pour vivre ensemble. Aujourd'hui, mystère. Hier, tu disais on se rassemble, on est fait pour fuir ensemble. Aujourd'hui, mystère. Tout n'est que tourbillon, une étincelle, un éclair ou un papillon à l'éphémère. Tu sais ce qui lui manque, c'est de prendre tout le temps nécessaire. S'il faut, regarde en arrière, ou loin devant le mystère. Une seconde où la vie entière, c'est si beau quand les choses prennent tout.
secondes ou la vie entière, c'était Gaëtan Roussel sur Europe 1, le chanteur de Louise Attaque, dont la réédition de son quatrième album solo est prévue pour le 29 octobre prochain.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil sur Europe 1, il est 5h57 et c'est l'heure de faire un point sur ce qui vous attend dans les minutes qui viennent. Et Julien, vous allez nous emmener à 7000 km de la métropole.
Oui, en Guyane, où la situation sanitaire se dégrade à vitesse grand V, un quart des décès liés au Covid ont eu lieu ces 45 derniers jours. La faute à un relâchement des gestes barrières, mais aussi à une couverture vaccinale la plus faible de France. Moins d'un tiers des Guyanais sont protégés. C'est pour cette raison que le ministre des Outre-mer est sur place depuis vendredi dernier. Sébastien Lecornu, avec lequel nous serons en ligne. Comment faire face à cette situation? Sa réaction aux propos de Christiane Taubira qui refuse d'appeler la population à aller se faire vacciner, ce sera dans une dizaine de minutes. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Qui aurait pu imaginer que ces deux-là allaient se plaire? La légende américaine, le chanteur sophistiqué Tony Bennett et la star de la pop Lady Gaga. Ils sortent un deuxième album de duo cette semaine. On en parle dans 20 minutes.
Mais avant, on fait un point sur la météo avec vous, Anissa Haddadi, et beaucoup de brouillard ce matin.
Oui, sur toute la moitié nord du pays. Hein. Il va falloir être très prudent ce matin entre la Bretagne et le Grand Est. Hein. Il y a des brouillards partout. Sur la Normandie et les Pays de la Loire, en plus des brouillards, on a quand même des pluies qui sont assez soutenues ce matin. Sur la moitié sud, le temps sera bien plus calme que ce week-end, avec quand même pas mal de soleil dès le début de la journée. Cet après-midi, la perturbation qui touche la Normandie ce matin avance, avec une bande très nuageuse et menaçante entre les Ardennes et le massif central. Partout ailleurs, on retrouve un peu de soleil, notamment à l'arrière de la perturbation. Attention au vent hein, dans le nord-ouest avec des rafales jusqu'à 100 km/h. Et au bord de la Méditerranée, la journée est ensoleillée. 12 à 21 degrés ce matin. Cet après-midi, c'est plus frais dans le nord avec 18 degrés à Cherbourg, 19 à Lille, 20 pour Paris, 21 à Aurillac. Dans le sud, agréable, 25 à Grenoble, 27 à Nîmes et 29 pour Perpignan.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous. C'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
L'actualité ce matin, c'est l'Allemagne où le SPD l'emporterait d'une courte tête selon les résultats provisoires. 1,6% des voix seulement séparent les conservateurs des sociaux-démocrates. Tout se joue à présent dans les négociations de coalition. Les explications de notre correspondante à Berlin dès le début de ce journal. Le mur de la honte, l'inscription est taguée sur le mur construit entre Pantin et Paris. Une séparation décidée après l'évacuation des toxicomanes de la capitale. Reportage auprès des habitants excédés. Et puis deux ans après, les experts toujours sans certitude sur les causes de l'incendie de l'usine Lubrizol. Une certitude en revanche pour les riverains, leur santé est en danger. Le journal de 6 heures vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Les sociaux-démocrates remportent les élections législatives en Allemagne. 25,7% pour le SPD, 24,1% pour la CDU selon les résultats provisoires. Entre les deux candidats, Scholz et Laschet, presque rien, donc un mouchoir de poche. Prudence donc, car après la bataille des urnes, une autre commence ce matin, celle des tractations avec les autres partis. Hélène Kohl.
La dernière fois qu'on a connu un score aussi serré, c'était en 2005, quand Angela Merkel est devenue chancelière. Pendant toute la soirée électorale, Gerhard Schröder avait revendiqué la victoire. 16 ans plus tard, le rapport de force est inversé, mais il faut rester prudent. Comme on l'avait pressenti pendant la campagne, tout va se jouer pendant les négociations de coalition qui vont s'ouvrir dans les prochains jours. Deux majorités semblent possibles. Dans les deux cas, avec les libéraux et les verts, qui semblent tout à fait prêts à travailler ensemble, soit avec Olaf Scholz comme chancelier, soit avec Armin Laschet. C'est le point qu'il faudra trancher, mais en somme, le vote des Allemands est tout à fait fidèle à l'ambiance générale de la campagne. Il régnait ces dernières semaines en Allemagne un sentiment de gratitude pour le travail d'Angela Merkel, et donc les Allemands ont cherché de la continuité et voté au centre. Mais ils veulent aussi qu'on mette un coup d'accélérateur pour moderniser le pays. Et ils ont donné un mandat aux libéraux et aux verts. L'Allemagne a voté pour le changement dans la continuité. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Une soirée électorale suivie de près par l'Elysée. Hier soir, Emmanuel Macron a été rivé sur son téléphone portable alors qu'il dînait à Lyon, entouré de grands chefs étoilés.
Le président de la République en a profité pour annoncer la création d'un centre d'excellence de la gastronomie française basé dans la région lyonnaise. Un lieu dédié à l'entraînement des champions français en vue des compétitions internationales.
D'un côté, Pantin, ses rues animées, ses nombreux cafés et son marché couvert. De l'autre, Paris et le square de la Porte de la Villette où sont rassemblés plusieurs dizaines de consommateurs. consommateurs de crack.
Et entre les deux, un tunnel désormais bloqué par un mur. Il a été construit vendredi sur décision de la préfecture pour empêcher l'installation de ces toxicomanes. Un mur de la honte pour les riverains qu'a rencontré Océane Théard.
Je vis dans la peur, c'est tout.
Susanna a les yeux cernés. Cette habitante du quartier a du mal à dormir depuis que les toxicomanes ont été installés à 200 mètres de son immeuble. Elle redoute déjà la sortie du métro après le travail.
Je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer chez moi, à part me téléporter, puisque ce square est le passage obligé. Il n'y a pas de trottoir en face, il n'y a pas d'autre accès pour aller du métroport de la Villette chez nous. Mon mari m'accompagnait à chaque voyage, mais il ne pourra pas le faire à chaque fois.
Une peur liée également à la misère. C'est ce qu'explique Stéphanie Benoît, riveraine et porte-parole du collectif Anti-Crack 93.
Alors on a pu observer déjà malheureusement de nombreuses agressions, uniquement des femmes qui avaient été ciblées. Elles se sont pris des gifles, des coups de poing, se sont fait voler leur téléphone. Mais ils vivent à ciel ouvert en fait, ils n'ont aucun moyen de se protéger, c'est inhumain. On craint pour notre sécurité, on craint aussi pour eux, parce que l'idée c'est pas non plus de voir des personnes mourir sous nos fenêtres en fait.
Les riverains ont prévu de manifester tous les mercredis pour demander une prise en charge d'urgence de ces toxicomanes.
Reportage d'Océane Théard pour Europe 1. Des habitants qui se sont mobilisés déjà hier matin dans une ambiance tendue. La présidente de région Valérie Pécresse était d'ailleurs invitée au rassemblement.
Avec probablement quelques arrière-pensées électorales pour celle qui est aussi candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse devra d'abord convaincre les militants, les Républicains.
Ce sont eux qui choisiront le candidat de la droite lors d'un congrès prévu le 4 décembre. Un mode de désignation validé samedi. Alexandre Chauveau, le choix d'une primaire fermée, mais c'est la possibilité pour Xavier Bertrand de revenir au centre du jeu.
Oui, le vote de samedi est vu comme un signe d'espoir pour Xavier Bertrand, car faute d'avoir réussi à imposer sa candidature de manière naturelle, le nordiste avait finalement accepté récemment l'idée d'un vote interne au parti et il devrait, selon toute vraisemblance, se soumettre au vote des adhérents. Mais en coulisses, le patron des Hauts-de-France espère que le congrès du 4 décembre, qui doit désigner le champion des Républicains, ne vire pas à l'affrontement et qu'un accord entre les différents prétendants intervienne avant cette date. Accord qui le désignerait dans ses espoirs comme le candidat officiel de la droite, mais difficile à ce stade d'imaginer Valérie Pécresse ou Michel Barnier s'effacer derrière lui. Pas sûr non plus que Xavier Bertrand soit le favori des adhérents. Beaucoup lui reprochent d'avoir claqué la porte du parti en 2017 et pourraient privilégier un candidat fidèle au parti. Michel Barnier, par exemple, l'ancien commissaire européen monte en puissance et peut déjà compter sur le soutien discret de Laurent Wauquiez et d'une cinquantaine de parlementaires.
L'éclairage d'Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Nouvelle claque électorale pour Ségolène Royal. L'ancienne ministre s'était présentée aux élections sénatoriales des Français de l'étranger. Elle ne recueille finalement que 11 voix sur 533, un résultat insuffisant pour obtenir l'un des sièges en jeu. Le PS a joué la division en imposant une candidature contre moi, a justifié l'ancienne candidate à l'élection présidentielle.
C'était le 26 septembre 2019. Deux ans plus tard, les experts n'ont toujours aucune certitude sur l'origine de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen.
Hier, une centaine de manifestants se sont rassemblés devant la préfecture de Seine-Maritime à Rouen. Des riverains toujours inquiets pour leur santé deux ans après le passage de cet immense nuage de fumée noire. Caroline Baudry.
Le président de l'association des sinistrés de Lubrizol ne lâchera pas l'affaire. Et comme beaucoup de ses voisins, Simon de Carvalho refuse depuis deux ans de boire l'eau du robinet.
On a senti que le goût il avait changé. Voilà, trop de chlore. Et aujourd'hui, voyez-vous, on vient de me remettre une clé USB. Ce sont les analyses de l'eau qu'on boit, nous riverains. La preuve des pics de pollution en 2019.
Ces analyses seront transmises à la justice dans le cadre de l'enquête ouverte. L'usine a été mise en examen deux fois, dont l'une pour rejet de substances nuisibles dans les eaux. L'avocate de l'association, Julia Massardier, tente désormais de se procurer un document clé, celui qui recensait avant l'incendie les dangers potentiels liés à l'usine.
La préfecture dispose de ce document et quand je lui ai demandé, ils m'ont fourni un document avec les parties masquées de noir, que des pages manquantes. Nous en avons besoin pour pouvoir saisir le tribunal administratif et questionner la responsabilité de l'État dans ce cadre-là.
Le préfet refuse de fournir le document complet pour des raisons de sécurité. Il rappelle que les milliers de prélèvements réalisés jusqu'à présent sont conformes au seuil de pollution réglementaire.
Caroline Baudry pour Europe 1.
C'était le journal de Romane Hoquet. Merci Romane.
Il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et on commence avec un exploit. Julien Alaphilippe conserve son titre de champion du monde.
Oui, au terme d'une magnifique course, le Français a remporté hier son deuxième titre de champion du monde d'affilée. À Louvain, en Belgique, dans le pays du cyclisme, chez l'immense favori Wout van Aert, excusez du peu. Alaphilippe est sorti seul à 17 km de l'arrivée et n'a plus jamais été revu. Le coureur de la Deceuninck Quick-Step devient seulement le 7e coureur à conserver son maillot arc-en-ciel, le premier Français. Et il sait désormais ce qu'il attend, écoutez.
Je me retrouve avec le maillot et il n'est pas tombé de nulle part. J'ai vraiment été le chercher, donc je vais vraiment le savourer aussi. Ça m'a pris beaucoup d'énergie de porter et d'honorer le maillot toute l'année. Et là, je réalise même pas encore que je l'ai à nouveau sur les épaules. Donc, je serais certain qu'il y a des petites choses qui vont changer pour le savourer encore plus, mais pour l'honorer quand même au maximum.
Quel exploit!
Quel exploit exactement, Julien Alaphilippe au micro européen d'Axel May.
Un chiffre aussi ce matin, le chiffre 100.
Oui, comme le nombre de victoires de Lewis Hamilton en Formule 1.
Quel exploit aussi.
Exactement, il s'est imposé hier au Grand Prix de Sochi en Russie. Mais c'est son grand rival, le néerlandais Max Verstappen, qui a fait le show. Parti dernier, il finit deuxième. Au classement général, c'est toujours aussi serré. À 6 courses du terme, Hamilton ne possède que 2 petits points d'avance sur Verstappen.
Du golf maintenant et une claque pour les Européens.
Oui, la Team Europe a été sévèrement battue ce week-end. Lors de la Ryder Cup, les golfeurs américains portés par une nouvelle génération hyper talentueuse l'emportent 19 à 9. C'est leur 27e victoire en 43 éditions.
Un exploit aussi, non ?
Non, justement, non.
C'est jamais un exploit de se faire battre par les Américains.
Enfin du foot pour finir.
Oui, avec une ambiance de folie hier au Vélodrome. Des supporters lensois et marseillais qui chantent à l'unisson, ça change des affrontements. Sur le terrain, Lens s'impose 3-2 au terme d'un match fou. Le gardien lensois Jean-Louis Leca était admiratif de son équipe.
Pour gagner un match comme ça, c'est pas l'arrêt de Leca, c'est pas Fofana, c'est le Racing Club de Lens qui arrive en mission pour faire quelque chose de grand et c'est ce qu'on a fait ce soir. Souvent on parle de groupe, on parle d'équipe et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui je suis fier parce que c'est même pas un groupe, c'est pas une équipe, c'est plus une famille et ça se ressent je pense.
Au classement, Lens ravit sa 2e place à l'OM. Paris caracole toujours en tête avec déjà 9 points d'avance. Dans la zone rouge, ça va mal pour Saint-Etienne et Brest qui n'ont toujours pas gagné le moindre match.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Martin Lange.
6h09 sur Europe 1, vous restez avec nous dans un instant. Nous serons en ligne avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui est en Guyane où la situation sanitaire et sociale est très inquiétante. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11, bon début de matinée avec Europe 1. On traverse maintenant l'Atlantique pour nous rendre dans un territoire ultramarin où la situation sanitaire est très inquiétante. Seulement 30% de la population est vaccinée. Il s'agit de la Guyane que visite depuis vendredi notre invité Julien, le ministre des Outre-mer.
Bonjour Sébastien Lecornu.
Bonjour.
Merci Monsieur le ministre d'être en ligne avec nous depuis la Guyane. La Guyane qui fait face à une situation très préoccupante et à un niveau de décès lié au Covid jamais atteint. Ce sont les mots, il y a quelques jours, de l'Agence régionale de santé. Et justement, cette réalité, vous vous y êtes confronté samedi en visitant l'hôpital de Cayenne. Vous y avez vu quoi ?
Écoutez, une situation particulièrement tendue puisque l'épidémie, évidemment, ici, sévit depuis mars 2020. La sous-vaccination de la population explique en grande partie désormais cela, puisque les 21 personnes qui ont perdu la vie ces 7 derniers jours étaient des personnes non vaccinées. Donc on a une tension très importante en réa, on a un taux d'incidence de plus de 520 cas pour 100 000 habitants, c'est donc le taux d'incidence le plus important de la République, avec le variant Delta qui circule majoritairement. Les soignants hospitaliers y font face. La réserve sanitaire est largement déployée, les renforts viennent de l'Hexagone, mais il est clair que la situation est tendue sur place.
Qu'avez-vous dit à ces soignants épuisés qui en plus sont la cible désormais des antivax ? Certains bloquent l'accès aux établissements de santé ou perturbent les opérations de vaccination.
J'aurais rappelé qu'ils avaient raison, qu'ils étaient dans leurs droits, qu'ils étaient le visage de la République qui s'investissait au quotidien pour sauver des vies et que il est quand même bien le comble qu'on laisse parfois la part belle dans les médias à celles et ceux qui mettent la vie des autres en danger, là où d'autres, au contraire, s'épuisent à sauver des vies. J'ai d'ailleurs remis un certain nombre de légions d'honneur et d'ordres nationaux du mérite, parce que c'était la moindre des choses que de leur dire merci, de les soutenir, et aussi qu'un ministre vienne localement porter la parole sur la vaccination pour ne pas les laisser seuls face à des détracteurs qui parfois font courir les fake news les plus invraisemblables. La Guyane aujourd'hui, elle est confrontée à cela, à des contre-vérités, à des mensonges qui ont fait beaucoup de mal, à des incertitudes, à des propos qui ont pu créer le doute, alors qu'on le sait très très bien sur l'ensemble de la planète désormais, le vaccin est la solution de prévention. Et ce qui me frappe beaucoup localement, c'est que certains cherchent encore des solutions curatives, des médicaments pour soigner le Covid, alors qu'on sait très bien que le vaccin est la solution, mais une fois de plus, il y a parfois des récupérations politiciennes de cette question de la vaccination qui font beaucoup de mal et qui conduisent malheureusement un certain nombre de nos compatriotes à perdre la vie.
Vous faites référence aux propos de Christiane Taubira ou aux ceux de certains élus locaux qui refusent ces derniers jours d'appeler explicitement la population à se faire vacciner, qui disent « c'est pas pour ça qu'on a été élu, ce n'est pas notre rôle ».
La ministre Taubira, d'autres élus locaux ne sont pas source de fake news pour le coup. Il faut être honnête et rendre les choses justes. En revanche, un certain nombre de collectifs localement s'amusent à colporter des contre-vérités absolument invraisemblables sur le vaccin, par des boucles WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Évidemment, cela fait mal. En face, parfois, une élite locale a du mal à dire clairement qu'elle est vaccinée. Évidemment, c'est une difficulté. J'ai pu en parler notamment avec le monde économique, qui lui a besoin de voir la reprise se faire, notamment les restaurateurs, le secteur de l'événementiel, le monde de l'hôtellerie, et puis surtout les familles de victimes, parfois ont du mal à comprendre pourquoi aussi ces contre-vérités ont circulé.
Mais vous ne trouvez pas irresponsables les propos de Mme Taubira ? Vous ne trouvez pas qu'elle n'est pas claire dans ses propos, alors que la situation, vous venez de nous la décrire, est critique ?
Ce qui est troublant chez Christiane Taubira, c'est que son parcours politique est fait de raison et de clarté. Et que parfois même, d'ailleurs, la droite ou l'extrême droite s'en sont pris à elle avec une violence injuste et inqualifiable, alors qu'au contraire, on se rappelle tous de ses discours pendant le mariage pour tous sur lequel elle était capable de décliner un raisonnement. Et c'est vrai, ce qui a beaucoup troublé les uns et les autres dans son interview sur une autre station de radio, c'était de voir que le flou prédominait. Depuis, elle a corrigé par un tweet, donc je veux m'en tenir au tweet de clarté qu'elle a commis ensuite, mais il est clair que cet épisode témoigne de la difficulté que nous avons en Guyane de dire clairement qu'il faut se vacciner.
Est-ce que vous n'y voyez pas le signe d'une défiance grandissante des Outre-mer vis-à-vis de l'État ? Je fais référence aux propos d'autres élus locaux qui ne reprennent pas pour eux les appels à la vaccination.
Moi, je pense qu'il y a une forme de lâcheté à dire ça. D'ailleurs, je leur ai dit parfois droit dans les yeux, c'est pas l'État qui amène le vaccin. La planète tout entière se vaccine. On n'est pas dans un drame franco-français dans le cadre du Covid. Et pardon, ce ne sont pas les politiques ou les représentants de l'État qui demandent à la vaccination, ce sont celles et ceux qui sont en blouse blanche, qui sont soignants, qui voient aussi le drame de voir des gens qui ont parfois 10, 15, 20 ans de moins que sur les premières vagues rentrer en réa, des patients particulièrement jeunes. Figurez-vous que j'ai pu voir à Cayenne, au centre hospitalier local, un service de pédiatrie dans lequel il y avait beaucoup de jeunes enfants, voire des nourrissons, qui étaient touchés par la Covid. Donc là aussi, les récupérations politiciennes n'ont pas de sens. Comparer le vaccin au drame, au scandale de la chlordécone, aux essais nucléaires en Polynésie française, franchement, ça n'a pas de sens. Et donc on ment à des gens qui vont finir par perdre la vie. Mais il faut être honnête, très franchement, la situation est très tendue.
Merci Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, d'avoir été en ligne avec nous depuis la Guyane. Bonne visite et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Il est 6h17, vous restez avec nous dans un instant, la partition du chanteur américain Tony Bennett sur Europe 1, tout de suite.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 6h19. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi avec Alban Le Prince.
Après 16 ans au pouvoir, qui pour succéder à Angela Merkel aux législatives allemandes ? Les sociodémocrates ont recueilli 25,7% des voix selon le dernier décompte officiel dévoilé ce matin, encore provisoire. Le Clairefontaine de la cuisine, Emmanuel Macron a annoncé hier soir à Lyon la création d'un centre d'excellence de la gastronomie française dans la région lyonnaise. Et puis former 1 400 000 demandeurs d'emploi en 2022, objectif ambitieux affiché par Jean Castex dans les Échos. Le Premier ministre annonce aussi l'extension sur toute l'année prochaine des aides au recrutement d'alternants.
On termine Omblin avec votre partition qui s'intéresse ce matin au doyen des chanteurs américains, l'un des plus populaires aux États-Unis. Sa carrière couvre les 70 dernières années et il revient avec un nouvel album cette semaine. Il s'agit de Tony Bennett.
Et même si son parcours n'a pas été de tout repos, Julien émaillé de sérieux passages à vide et inexorablement dans l'ombre du géant Frank Sinatra, eh bien Tony Bennett explique cette longévité par le soin méticuleux qu'il a toujours apporté à ses enregistrements, que ce soit le choix des chansons ou la sélection des musiciens.
Oh, the good life, full of fun, seems to be the
Issu d'une famille italo-américaine, Tony Bennett se lance dans une carrière de chanteur à son retour de la guerre en 1945.
En plein âge d'or des big bands, il étudie les arts du spectacle dans la 52e rue. À New York, la rue du jazz, l'un de ses professeurs lui conseille de ne jamais imiter un autre chanteur, mais de s'inspirer des musiciens.
C'est pour ça qu'il s'est toujours défini comme un chanteur de jazz et non comme un crooner.
Voilà, Tony Bennett imite les techniques des pianistes, des saxophonistes, la façon dont ils interprètent les mélodies. Première difficulté dans sa carrière, l'explosion du rock dans les années 60 qui le fait passer pour un ringard. Le chanteur retrouve un deuxième souffle grâce à l'album qu'il enregistre avec la légende du jazz, le pianiste Bill Evans, en 1975.
La force de Tony Bennett, c'est de toujours s'accrocher, de lutter contre l'oubli et de réaliser des coups de poker.
My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you dear only.
Dans les années 90, il enregistre un concert unplugged, qu'on prenait débranché, acoustique, pour MTV comme pour Nirvana. Et dans les années 2010, il va entrer en studio avec des artistes qui semblent d'instinct s'éloigner de son répertoire comme Willie Nelson ou Mariah Carey.
I spend my days in a hungry.
La voix d'Amy Winehouse, il s'agit ici de son tout dernier enregistrement.
Miracle, à l'âge de 85 ans, Tony Bennett devient l'idole des jeunes avec son album de duo.
Il va capitaliser sur ce succès, le plus important de sa carrière, qui ouvre alors le champ des possibles. Nouveau tandem improbable, mais qui relève du génie. Tony Bennett enregistre tout un album avec la pop star Lady Gaga, uniquement des standards de jazz. Jackpot en 2014 avec Cheek to Cheek. 7 ans plus tard, eh bien, ils remettent ça.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? Yeah, I get a kick out of you.
Me?
Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you.
Tony Bennett, 95 ans, il les a fêtés cet été, accompagné de Lady Gaga, I Get a Kick Out of You, leur album de duo. Love for Sale, consacré au répertoire de Cole Porter, sortira vendredi.
Merci beaucoup, Omblin. Très agréable cette ambiance jazzy new-yorkaise ce matin. Très agréable également sera la suite de votre matinale avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite, Europe 1.
Europe Matin.
Il est 6h27 et sur Europe 1 et Julien, nous, on revient demain.
Dès 5h, bon pied, bon oeil. Mais d'ici là, restez avec nous. Votre matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.